Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap avec
Jean-Pierre Estrampe.
And forgotten me, it's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me I don't.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Qu'est-ce que le glyphosate? Eh bien, le glyphosate, c'est un herbicide qui fait partie de la famille des pesticides comme les fongicides, qui combattent les champignons, les insecticides, qui vont, supprimer les insectes, et les parasiticides, qui, eux, suppriment les vers. Je le dis parce que personne ne le sait en studio, donc je suis tout content de le placer. Ce glyphosate est donc un produit parmi d'autres utilisé par l'agriculture, notamment française. Pour autant, il focalise toutes les critiques et beaucoup de demandent son interdiction immédiate. Le 13 février dernier, une quarantaine de personnes ont porté plainte à Toulouse en mettant en avant la présence de glyphosate dans leurs urines et considérant donc qu'il y avait mise en danger de la vie d'autrui, comme le prévoit le Code pénal. Il y a un très bel article là-dessus. Il est à présent clair pour beaucoup que ce fameux glyphosate produit par la très contestée firme Monsanto, de sinistre réputation, représente un danger pour la santé, celle des consommateurs, mais aussi celle des agriculteurs qui sont eux exposés aux produits puisqu'ils le manipulent et les pendent. En 2015, l'Autorité européenne des aliments, dite EFSA, a déclaré, je cite son terme, improbable que le glyphosate puisse provoquer des cancers, alors que la même année, le Centre national de recherche sur le cancer a estimé que ce désherbant possède un caractère, et là aussi je cite le mot et l'adjectif, cancérogène probable. Bref, la confusion est totale. Cet herbicide a été découvert dans les années 60 avant d'être breveté en 74 par Monsanto et aujourd'hui il est tombé dans le domaine public. Alors il est systémique puisqu'il détruit toute la plante des feuilles jusqu'aux racines et total puisque quasiment aucune plante ne lui résiste. Aujourd'hui, le glyphosate représente près de la moitié du tonnage de tous les herbicides utilisés par l'agriculture française. La loi Labbé de 2014 a interdit notamment l'usage des pesticides dans les espaces verts des collectivités locales. Si on en croit certains, il semblerait qu'il y ait encore quelques dérapages et quelques utilisations un peu sauvages de ce glyphosate. Mais ce fameux glyphosate n'est que la partie visible de l'iceberg. Il ne représente qu'une facette d'un système agricole qui est né dans les années 55, alors qu'il s'étend de 55 à 85, puisqu'on les appelle les 30 glorieuses de l'agriculture. Et à l'époque, la société a voulu que les agriculteurs produisent des grandes quantités à des prix réduits, d'aliments suffisamment homogènes pour favoriser le développement de l'industrie agroalimentaire. Force est de constater que les agriculteurs, pour leur part, ont rempli le contrat. Mais aujourd'hui, il faut inventer un nouveau système, adapter chaque production, et les agriculteurs ne pourront pas le faire seuls. Il convient aussi d'arrêter de faire croire aux gens qu'ils peuvent continuer à manger pour presque rien, c'est d'autant plus qu'un moindre recours aux pesticides entraînera une augmentation des prix des aliments. Bref, c'est quasiment un changement de société auquel il faut procéder. Pas certain que ni Macron ni la FNSEA n'aient pris la mesure des enjeux et ne continuent à privilégier des solutions à la petite semaine plutôt que de s'attaquer à la réforme du système qu'agriculteurs et consommateurs appellent de leur vœu. Cela étant dit, nous retrouvons ce jour sur Occitanie notre invité de la semaine dernière, donc qui revient en deuxième semaine. Nous avions, à l'occasion de la première émission, parlé essentiellement d'architecture. Aujourd'hui, c'est d'urbanisme et de politique de la ville dont nous allons nous entretenir. Bonsoir Jean-Pierre Estrampe.
Bonsoir Jacques.
Et bonsoir Léonore Victoria, ma camarade de radio avec qui nous faisons un certain nombre d'émissions, dont Ça va mieux, qui est venue renforcer l'équipe ce soir. Bonsoir Léonore.
Bonsoir Jacques.
Voilà, alors la ville, ville politique de la ville, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a véritablement une politique de la ville ou est-ce que c'est l'anarchie ? Première question qui me vient lorsque je me balade dans Toulouse, alors on va prendre Toulouse comme référence, mais on va aussi parler d'autres villes, et grâce à Léonore, nous parlerons un peu des villes de son continent, c'est-à-dire le continent sud-américain. Est-ce qu'il y a véritablement une vision ?
Alors, avant de parler de la politique de la ville, il s'agirait de définir ce concept qui est un concept flou. Parce que la ville, c'est trois niveaux à la fois. Le premier, c'est les limites administratives d'une ville, la commune, avec ses frontières qui ne se recoupent pas forcément avec la ville en tant que forme. On va appeler ça la morphologie de la ville, qui est la deuxième définition. C'est-à-dire, c'est une ville, c'est une continuité agglomérée et dans laquelle, effectivement, la frontière administrative n'est pas visible. Et il y a... Alors, ces deux choses sont... vous connaissez des exemples. Il y a des villes qui sont en continuité, mais c'est des communes politiquement différentes, avec des maires différents. Et puis, il y a une troisième notion qui est plus récente, c'est la notion de zone urbaine. Et la zone urbaine, là, c'est un concept qui est flou, c'est une entité économique où il y a un certain nombre d'allers-retours entre les endroits de pôle de travail et la population qui habite. Alors là, c'est quelque chose qui est indéfini. Et quand on parle de la ville, on passe d'un concept à un autre, on saute de l'un à l'autre. Par exemple, on dit Toulouse fait 800 000 habitants ou 600 000 habitants. Mais on parle de quoi ? Alors, si c'est la forme dense, ça va être le centre-ville, qui est évidemment différent. Par exemple, la côte pavée n'est pas... c'est des maisons, ce serait le centre ancien. Donc, quand on parle de ville, on parle de la ville ancienne. Et puis, il y a la commune de Toulouse, qui est définie par sa frontière et qui n'est pas effectivement cette zone urbaine. Donc, on passe de l'un à l'autre en permanence. Et on dit, par exemple, il faut que les villes soient piétonnes. Et si la ville, elle fait 60 km de côté, je pense que c'est difficile. Par exemple, la zone urbaine de Toulouse va jusque dans le sud, quasiment en Villefranche. Carrément, elle inclut Colomiers, elle va jusqu'à Muret. Ça, c'est la zone urbaine. Alors, on ne précise jamais. Et donc, on a aujourd'hui, avant de parler de forme urbaine et de politique de la ville ou d'urbanisme, on ne sait pas de quoi on parle. Et de ce fait, on a surtout des adjectifs qui sont... Alors aujourd'hui, c'est la ville verte, la ville du vivre ensemble, la ville connectée, la smart city quand on est chic. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de vocables, mais qui sont imprécis. Et on ne voit rien du tout de concret, de palpable. Quand on parle, par exemple, du Paris de Haussmann, ou quand on parle des Bastides languedociennes, on voit bien de quoi il s'agit. On a immédiatement une vision, dans le cas des Bastides, d'un plan sur une base carrée, avec une place centrale et des, si ce n'est des murailles, au moins des arbres qui forment la périphérie. Paris de Haussmann, on sait très bien que Haussmann a taillé dans la ville ancienne et fait des parcs, des avenues, des boulevards, et il a aéré une ville qui a servi d'ailleurs de modèle à d'autres villes dans le monde, parce que on faisait le Paris de Haussmann. Aujourd'hui, on fait quoi ? Quel est le modèle ? On n'en parle jamais. Il n'y a pas de modèle, si ce n'est que tout le monde parle de la ville comme si c'était quelque chose d'évident. Et comme je viens de vous dire, mais ça n'est pas du tout entre le centre-ville et l'agglomération et la zone urbaine qui est sur des dizaines et des centaines de kilomètres carrés. Donc, je pense que la chose la plus surprenante, c'est que plus on est informé, ou on a la possibilité de s'informer, notamment avec des outils extraordinaires que sont Google Earth, qui permet de voir le puits dans son jardin, on a une connaissance bien moindre que des époques passées où on n'avait à l'époque aucune vue aérienne et on faisait des cadastres. C'est-à-dire que plus on a d'outils, moins on a de connaissances.
C'est un peu inquiétant quand même.
C'est très, très inquiétant. que
vous nous dites. Donc, si on veut parler de la ville et de la politique de la ville, ce qui est le sujet de ce soir, il faut savoir de quoi on parle. On pourrait commencer peut-être par la périphérie, puis se rapprocher vers le centre, si vous
oui,
avez d'accord.
Mais on peut aussi prendre quelques exemples. Par exemple, de l'échelle. Alors, c'est un truc qui est assez amusant, qui est quand on a fait le métro à Toulouse. Et donc, on a fait le métro à Toulouse parce que il fallait être grande ville. Donc, on a fait, alors je vais pas rentrer dans le débat sur le transport, c'est pas ça le sujet, mais c'était le mimétisme avec Paris. Paris, le métro, et toute grande ville doit avoir le métro. Le problème, c'est que l'échelle est tellement différente et personne n'a remarqué que d'aller, du palais de justice, palais de justice, des Carmes, Esquirol, Capitole et Jean Jaurès Wilson, eh bien, 5 stations, ça fait. Vous les rentrez toutes dans la station Montparnasse Bienvenue ou la station Châtelet-Léal. C'est-à-dire que dans Châtelet-Léal, vous faites à pied pour aller d'une correspondance à une autre la distance qui est égale à 5 stations du métro toulousain.
C'est vrai, oui, pour l'avoir souvent passé, c'est une station redoutable, c'est la plus grande de Paris.
Oui, alors c'est intéressant de superposer les échelles et de se rendre compte qu'on ne parle pas de la même chose, puisqu'on est sur des rapports d'échelle totalement différents. Alors, on peut rentrer dans la polémique, par exemple, de la tour Occitanie.
Oui, alors, puisque vous l'évoquez, qu'est-ce qu'il faut en penser? Vous, l'architecte, l'urbaniste, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, qui pour l'instant n'est que projet?
Ça revient, mon propos, c'est-à-dire qu'on dit les grandes villes et les métropoles doivent avoir une tour. C'est posé comme on avait dit il y a 30 ans, les grandes villes doivent avoir le métro. Et simplement, on ne regarde pas quelle est l'échelle. Et par exemple, la tour Occitanie, elle fait la moitié de la tour Eiffel, hein, 150 mètres.
Donc ce serait l'immeuble le plus haut de Toulouse, non?
Oui, et de loin. Et de loin. La moitié de la tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel est posée sur le Champ de Mars avec le Trocadéro. La distance, alors elle est un peu un tiers, deux tiers. La distance du Trocadéro à la fin du Champ de Mars, ben c'est Matabiau, le Pont-Neuf.
Oui.
Voilà. Donc, alors on dit, on va faire une tour comme il y a à Paris, comme il y a à la grande ville, mais on ne voit pas que nous sommes dans un village centre-ville, et qui en fait tout son charme d'ailleurs. Donc, tout le problème, c'est de poser les termes dans des choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de ville mondialisée, etc., tous ces grands mots, on ne parle pas des mêmes choses. Et on n'a pas les mêmes outils d'ailleurs de comparaison quand on parle des villes.
Ça veut dire que pour vous, cette tour finalement casserait un peu l'harmonie de Toulouse. Il n'y aurait pas de cohérence entre sa taille et la taille de la ville.
Oui, c'est évident. Là, ce que je tente de vous dire, c'est le rapport du Champ de Mars qui fait la largeur de la ville. C'est incongru, c'est totalement. Mais ça, c'est un exemple parmi
d'autres.
Donc,
c'est un projet a priori pharaonique, mais qui n'a rien à faire à Toulouse parce qu'il va être posé là sans aucune logique, sans aucune cohérence avec l'urbanisme de la ville.
Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est le manque de cohérence. Oui, je pense que c'est un doux euphémisme. Voilà.
Ce qui veut dire que vous êtes un ennemi de la construction de cette tour, en tout cas.
Oui, mais pas spécialement sur ça. Je pense que c'est en général le mot métropole, par exemple, qui est appliqué aujourd'hui sur des villes comme Montpellier métropole, qui sont des gros bourgs pareils et qui sont la caractéristique de notre France, où nous avons un grand nombre de villages et qui en font tout le charme, et de ces villes moyennes dans lesquelles nous sommes. Et c'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Et surtout, ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'on ne peut pas tenir le même discours par rapport à cela. Par exemple, on va prendre le discours des villes mondialisées. Le discours aujourd'hui, c'est il y a les métropoles mondialisées avec les gagnants de la mondialisation qui habitent, et puis tous les gens qui sont dans les périphéries sont les exclus de la mondialisation. On a un géographe, Nicolas Guillouis qui a fait les choux gras ouais. avec ce genre de thèse, ça a été repris par tous les partis politiques. Mais je suis désolé, dites-moi, à Toulouse, qui c'est qui habite le centre-ville ? Parce qu'évidemment, on parle des centres-villes. Mettons Paris à part. Vous regardez les plaques, il y a des avocats, il y a des médecins, des psychologues, des architectes, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, d'enseignants. Je crois pas que ce soit très mondialisé. Par contre, si vous sortez de Toulouse, ces fameux gens qui sont les victimes de la mondialisation, bah, vous allez dans le Gers, vous avez Marciac, vous avez des gens qui vendaient du foie gras à New York, et vous allez dans l'Ariège, vous avez des textiles qui vendent mondialement Groyer, son cuir et
puis Gaillac. Il n'y a plus beaucoup de cuir dans le Tarn.
Peut-être bien, mais enfin, il y a Pierre Fabre, qui est international. Vous avez toute une gamme dans le tissu de la France, et pas de la périphérie. Et je pense qu'il y a la France, et puis il y a, en périphérie de la France, il y a des villes, qui sont pas des grandes villes.
Mais qui, pour autant, peuvent très bien aller à l'international et être connues.
Mais elles le sont parce que elles sont le support de la vente des produits qui sont tout autour. Mais en soi, aujourd'hui, les villes avant le produisaient. Il y avait des usines, il y avait le Bazac avec des moulins. Mais tout ça, c'est parti. Les magasins généraux, vous pouvez prendre. Il n'y a plus rien à Toulouse si ce n'est que de l'habitat bobo, disons,
du commerce de luxe. Prix.
C'est pas une critique que je fais. Je dis simplement ce qui est.
Que ça
ce n'est pas une position. Je ne tiens pas une position morale. Je dis simplement, appelons les choses par leur nom et regardons la réalité dans laquelle nous sommes.
C'est-à-dire qu'une ville, elle va évoluer avec le temps. Sa sociologie va évoluer, va changer, va muter. Mais est-ce que pour autant c'est mal ? Non, c'est pas un problème de bien ou de mal.
C'est une constatation factuelle. Je fais la constatation du monde qui n'est plus le même aujourd'hui. Nous avons par exemple, quand on vous parle de ces territoires perdus où les gens ne peuvent pas, alors, tout le monde a Internet partout, les gens ont du télétravail, personne, quand on vous dit habiter dans des centres denses parce qu'on ne va plus se déplacer, mais de quoi on parle ? On parle des usines Michelin au début du XXe siècle où les gens ils étaient attachés, la femme à la maison, les enfants à l'école Michelin et qui allait à l'église. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde qui est autre, dans lequel il y a des réseaux, des circuits, et je ne pose aucun bien ou mal. Et je pense qu'en fait, le problème de l'urbanisme, c'est qu'il est en termes moraux. Le mot vertueux, par exemple, revient en permanence dans les discours des urbanistes.
Qu'est-ce que ça veut dire, un urbanisme vertueux ?
Parce
que là, on introduit
vertueux, c'est celui qui est vert, la mixité sociale, c'est celui qui est, il est contre celui qui l'est pas.
Une ville bisounours.
Oui, le moins qu'on puisse dire. Enfin, surtout, il n'est pas dans la réalité. Il est un monde rêvé d'une sorte de.
Voilà, est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de rêve ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu d'utopie pour tendre vers cette utopie ? Parce que si on n'a pas d'idée, il faut bien avoir un principe directeur pour faire bouger une ville, pour l'organiser différemment.
Les utopies, je pense qu'elles sont politiquement dangereuses, et je pense que ce qui est important, c'est le réel, et le réel, on essaie de l'améliorer. Et donc, la question, c'est par exemple de prendre dans une ville comme Toulouse, de regarder Toulouse au lieu de regarder uniquement le centre ancien et puis les pavés en granit ou les joints de briques, de regarder par exemple l'entrée nord, qui était une entrée importante. C'était la route de Paris, c'était on dirait Kinshasa après la guerre. C'est sidérant, quoi.
Enfin, toutes les entrées de ville, c'est catastrophique. Il n'y a pas plus laid qu'une entrée de ville à Toulouse ou ailleurs.
Qui en parle ?
Nous, ce soir, tiens.
Voilà, très bien.
Alors, qu'est-ce que préconise Jean-Pierre Estrampe là-dessus?
Mais par exemple,
qu'est-ce qu'on pourrait faire
de lâcher la grappe un peu au centre-ville, de le laisser tel qu'il est, et peut-être d'investir toutes ces zones qui sont d'ailleurs aujourd'hui en fin de parcours, dans lesquelles il n'y a pas d'habitation, et on pourrait avoir un renouveau une véritable densification, par exemple, au niveau des activités, et on pourrait trouver des dessins de villes qui peuvent être imaginés dans tous ces grands territoires qui sont immenses.
Il n'y a pas de vie dans ces zones. Elles vivent la journée parce qu'il y a une activité économique. Mais après, quand les gens sont partis, les salariés
bien justement,
sont partis,
parce
il n'y a plus rien.
Parce
c'est un désert.
Mais parce que la réglementation a été celle-là. Mais qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, dans des zones d'activité commerciale ou industrielle, de dire on va y installer des restaurants.
Il y en a des restaurants de jour parce qu'il faut bien que l'on mange.
Oui,
mais le soir, quand tout le monde est sorti, c'est fini, le désert.
Non, mais mettre les activités nocturnes, par exemple, du loisir.
Mais qui c'est qui va aller là? C'est sinistre.
C'est sinistre,
Jean-Pierre.
Parce que c'est comme ça. Mais les villes, avant d'être rénovées, elles sont sinistres. Donc, il n'y a pas. Pourquoi démolit-on des ensembles de logements? Et pourquoi, avec des populations qui habitent et des traumatismes personnels, attendu que aujourd'hui tous ces hangars qui sont la moitié désaffectés, des parkings qui sont sinistres et envahis d'herbe, aujourd'hui, ça arrangerait tout le monde. Et ça coûterait pas grand-chose, je pense, à la collectivité, mais ça demande d'avoir un intérêt et d'avoir une politique par rapport à ça. Et actuellement, personne n'en parle. On n'enseigne pas ça dans les écoles d'architecture. Vous parlez, les zones industrielles, mais c'est un gros mot. On va parler des musées, on va parler de l'éducation, on va parler des sujets nobles. On avait abordé ce sujet la semaine dernière.
Absolument. On fait une première pause musicale, si vous voulez. Un Italien, Francesco De Gregori, ça vous va? Sempre per sempre.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. sempre per sempre alla stessa parte mi troverai.
Francesco De Gregori, un Italien, vous l'avez déjà entendu sur cette antenne, vraisemblablement. Alors revenons avec notre invité du jour, Jean-Pierre Estrampe, architecte. Nous parlons de la politique de la ville, parlons de l'avenir de ces villes en pleine mutation. Et comme je vous le disais en début d'émission, nous avons ma camarade Léonore Victoria qui est venue ce soir participer à cette émission. Alors Léonore, les villes sud-américaines, est-ce qu'elles sont comparables aux villes françaises? Est-ce que c'est bâti pareil? Est-ce que ça évolue pareil? Est-ce qu'on est dans du gigantisme? Est-ce qu'il y a des déplacements de population?
On a des déplacements des populations. Et je disais tout à l'heure, quand on parlait en hors ligne, sur le fait, l'évolution des territoires en Amérique latine, c'est-à-dire qu'il y a l'influence européenne à travers la colonisation espagnole et portugaise, et donc dans certains cas, dans certains endroits, c'était une architecture stricte, des plans à suivre. Et il y a eu une époque aussi où l'art précolombien, il a eu s'adapter entre les deux, entre l'Europe et l'art autochtone. Il a dû faire une fusion. Et donc c'est intéressant parce que les gens ils sont dû s'habituer à une façon de faire, à montrer l'art à travers leurs maisons, en sachant que c'était les gens riches qui avaient la possibilité d'avoir des grandes maisons, et les gens les plus pauvres ils avaient des maisons construites de façon très d'ailleurs même aujourd'hui avec les matériaux les plus simples. Mais il y a une évolution parce que je donnais tout à l'heure l'exemple de Cusco au Pérou. On voit un mariage entre l'art inca et on voit aussi l'européen, les deux ensemble. Et après, en ces moments, on a une question sur ce qui est le droit à la ville. C'est-à-dire pas, on ne prend pas ces mots en disant oui, on a droit à tous avoir une maison, sinon le droit de rebâtir, le droit de reconstruire. Et c'est sur ça que je voulais appuyer mon propos, parce que en ces moments, je ne sais pas si vous avez entendu ce que Bolsonaro il a dit sur les favelas, par exemple, c'est-à-dire de laisser de côté ces favelas parce qu'il dit que c'est le point de départ pour la violence, c'est le point de départ pour beaucoup de choses mauvaises. On oublie la pensée, on oublie l'histoire, on oublie que certains endroits sont typiques, au lieu de les améliorer, on est en train de les terrasser, c'est-à-dire on enlève les gens, parfois au lieu de donner la possibilité à des gens de se reconstruire dans un endroit et faire une fusion avec toute classe sociale. Mais parfois c'est brusque, parce qu'ils arrivent en disant, oui, on va vous donner une maison gratuite, mais on va vous s'éloigner de la ville. Et donc ça amène une échelle, ça amène une séparation entre les gens pour avoir plus d'opportunités et pour pouvoir faire le vivre ensemble, que c'est aussi l'urbanisme. Et
est-ce qu'on n'a pas eu ce phénomène-là? Je me souviens de la construction du quartier Saint-Georges, et Jean-Pierre, j'imagine que vous l'avez en tête aussi, quartier Saint-Georges, c'était tout à fait autre chose que ce l'est maintenant. Et à l'époque, on a déplacé des populations, on les a envoyées ailleurs. C'est un peu ce dont nous parle Léonore.
Oui, on avait abordé ce sujet sur la politique de population. Ma position, elle est assez radicale par rapport à ça. Je pense qu'un État démocratique ne doit pas avoir une politique de population, et pourtant c'est quelque chose qui est aujourd'hui généralisé. La mixité sociale, c'est une politique de population. Ça veut dire de déplacement des gens d'autorité. Alors, qu'on le fasse pour le bien ou pour le mal, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va avoir des bonnes raisons de faire de la mixité en disant on va mettre des personnes de classe moyenne avec les pauvres parce que ça va rééquilibrer, ou d'enlever les pauvres parce que il perturbe la vie tranquille des bourgeois. C'est la même chose. C'est une politique autoritaire. Et si on regarde bien aujourd'hui, les gens qui sont les plus efficaces pour cela, c'est les Chinois. Alors les Chinois, eux, ils sont partis du principe, et peut-être que ça rejoint ce que vous disiez sur l'Amérique du Sud, sur le droit à la ville, qui est un concept du marxiste Lefebvre, auquel je ne crois pas du tout. Il y a le droit à la ville, ça me paraît être une absurdité.
Comment vous le définissez, le droit à la ville,
Lefebvre? Cet esprit, ce sentiment qui érige la ville ancienne comme un modèle social. Mais c'est faux complet. La ville ancienne n'était pas du tout la ville de vivre ensemble. C'était la ville des aristocratiques avec les esclaves, entre guillemets, prolétaires, domestiques et artisans qui mouraient de tuberculose et de typhus dans les sous-sols sans lumière et qui aujourd'hui sont remplacés par des galeries. Mais c'est une forme qui n'est pas reproductible. Donc, c'est la même chose que quand les gens disent « Oh, ces bateaux de croisière sont très laids ». Alors moi, je ne fais pas un débat sur « Faut-il faire des bateaux de croisière ?» Ce n'est pas ça, moi, le problème. C'est que, c'est vrai, c'était très élégant. Et je pense que les galères étaient encore plus élégantes. Et on avait des gens qui étaient au-dessus, et puis les gens qui mouraient en tir. Et le paquebot, c'était ça. Il y avait les soutiers dans la soute, les troisième classe, et puis les premières classes qui avaient les fenêtres. Un État démocratique, eh bien, il dit tout le monde doit avoir la vue sur la mer. C'est évidemment, ces bâtiments sont laids. Ils sont des immeubles flottants. Et c'est à la ville d'aujourd'hui. C'est-à-dire que reconstruire les hôtels particuliers, ça voudrait dire justement la mixité sociale façon ancien régime. Et ce qui me paraît pas quand même un exemple parfait de modèle social. Donc c'est assez curieux, c'est que l'extrême gauche prend comme modèle social la France de l'ancien régime. C'est un peu
troublant, effectivement. Léonore.
Je voulais revenir sur ça. C'est justement, c'est dans les années 68 que cette idée a pris force en Amérique latine, et même aujourd'hui, il y a des groupes qui vont se former pour créer le droit à la ville, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des bâtiments pour retaper, pour donner leur identité et dire, voilà, ça nous appartient. Et on va essayer de faire un partage avec l'art, et aussi les gens de certaines populations pour qu'ils s'identifient avec nous, enfin, pour faire un nouveau urbanisme, si on peut dire comme ça.
Est-ce qu'on peut bâtir une ville sans avoir une philosophie? Non, il faut bien avoir des principes directeurs. On peut pas laisser se développer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment.
Oui, bien sûr, mais c'est le rôle de toujours.
D'ailleurs, ça, c'est le rôle du politique.
C'est le rôle du politique, et les villes ont été dessinées par les géomètres et le politique, en fait. Le mot urbanisme est apparu très récemment, au 19e siècle. C'est Cerda qui a inventé une théorie très scientiste de la ville. Mais avant, c'était le politique qui dessinait la ville. Le Paris de Haussmann, il a été dessiné, on l'oublie parce que Napoléon III, il est parti dans les oubliettes de l'histoire républicaine, mais il a été dessiné, il y a des dessins de Napoléon III et Haussmann qui était un préfet. Et ils ont dessiné Paris. Et il n'y a pas, les architectes, ils ont fait les bâtiments et à partir d'un règlement très simple, mais qui était un règlement qui montrait l'espace public et qui connectait les quartiers entre eux. En fait, c'est un projet politique. Alors évidemment, on a pu accuser que c'était pour tirer avec le canon.
Mais c'est ce qu'on a dit, oui.
Et c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, contre les quartiers qui étaient devenus, avec le temps, des communautés fermées dans lesquelles on ne pouvait pas rentrer et qui étaient aussi des lieux de violence où la police n'allait pas. On oublie ça. On a créé un ordre républicain qui était effectivement, qui montrait la loi, et vous qui êtes avocat, vous comprenez ça, il faut que la loi soit lisible. Et la ville, elle était lisible. Et l'erreur de l'urbanisme moderne, c'est justement d'avoir oublié cela, d'avoir oublié qu'il fallait qu'il y ait un espace privatif, ou du moins des lieux, qui s'oppose à un espace et qui est un espace réglé et protégé et sécurisé, qui est l'espace public. Et on a voulu nier ça en disant que tout doit être ouvert, et de ce fait, rien ne l'est, quoi. C'est-à-dire que il y a des quartiers qui sont aujourd'hui où la police ne peut pas rentrer, ni les pompiers, ni les médecins.
C'est ce qu'on appelle l'urbanisme criminogène, c'est ça?
Oui, bon,
on parlait des favelas tout à l'heure.
On en a déjà parlé. L'urbanisme, il suffirait de rétablir justement cet espace à minima, et ça demanderait de dessiner des espaces qui sont ceux-là. Alors l'urbanisme, on ne dit pas l'urbanisme criminogène, on dit l'architecture criminogène, on en a parlé déjà, et je suis évidemment totalement contre ce terme qui fait porter la responsabilité aux hommes, la responsabilité des bâtiments, c'était pas et c'est les hommes qui font les crimes et pas les bâtiments.
Est-ce que les villes, on parlait un peu hors micro, est-ce que les villes sont faites aujourd'hui pour les hommes? Est-ce que véritablement on peut avoir du plaisir et du désir à habiter en ville?
Alors, la question est, d'abord, il faudrait reprendre ce qui est dit aujourd'hui. Les médias qui reprennent, je pense, une pensée qui est très... Alors, c'est très surprenant parce que, j'allais dire écologique, mais en fait, c'est très curieux parce que l'écologie est un... Et son fondement, le fondement de l'écologie, ça vient beaucoup d'un esprit des États-Unis. Ça a été les premières sociétés écologiques qui étaient en fait non à l'État, très individualiste, et qui se retrouve dans l'esprit de la communauté autosuffisante, dans cet esprit. Mais c'est profondément anti-urbain. C'est la campagne, et c'est profondément anti-urbain. Alors le problème de l'écologie qui a été récupéré par les partis de gauche, d'extrême gauche, c'est qu'on a plaqué ce discours dont on parlait de la ville comme prototype et modèle social, et donc on développe à partir de cela une connaissance, enfin du moins une vision du monde où on vous dit que les trois quarts de l'humanité vont habiter dans les villes, et qu'aujourd'hui 70% des Français habitent dans les villes. Mais évidemment que c'est faux.
Mais pourquoi c'est faux? On voit quand même de plus en plus de gens qui arrivent. Il y en a 10 ou 15 000 qui arrivent à Toulouse
ans. Ils arrivent où? Non, quand on dit Toulouse, les trois, lequel de Toulouse c'est? Le centre-ville?
Ah, voilà.
Le 2 ou le 3? Si c'est le 3, je préfère vous dire, par exemple, moi qui habite dans le sud toulousain, tout le monde travaille Airbus à Montgiscard, Aigues-Vives, c'est quand même assez loin, c'est à la campagne. Et c'est vraiment la campagne.
Est-ce que c'est vraiment la campagne?
C'est vraiment la campagne. Il y a des biches dans mon jardin qui viennent de temps en temps.
Oui, mais ça, bon.
Non, mais c'est vraiment. Ce n'est pas ce que l'on appelle urbain. C'est-à-dire que le discours est complètement faussé, puisque on prend ce qui nous arrange, et en disant aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Paris a perdu le Paris intramuros. Là, lui, qui est quantifiable, a perdu de la population sur ces 5 dernières années. Le Toulouse, je ne sais pas quelles sont les statistiques sur le centre-ville, mais je pense qu'il a perdu de la population. C'est à peu près un phénomène général. Et on a un phénomène de dispersion sur le territoire, que l'on appelle l'étalement urbain, parce que c'est très insultant, et que l'on pourrait aussi parler de rééquilibrage démographique. On pourrait avoir des mots tout à fait positifs. Et donc, quand on vous parle des grandes métropoles qui prennent l'énergie et dans ces pauvres territoire désertifié, mais de quel pays on parle? Mais pas de la France. Donc c'est un discours généralisé qui est celui que l'on tient entre Saint-Germain-des-Prés...
Oui, mais Jean-Pierre, les populations, elles vont quand même plutôt là où elles vont pouvoir travailler et gagner leur vie. Si vous êtes au fin fond du Lot, sur les côtes du Lot, qui est un pays qui m'est cher, on le sait, il n'y a pas de travail, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher de Toulouse.
Mais il n'y a pas de travail dans Toulouse-Ville. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a quand même un tissu urbain et un tissu plutôt industriel, commercial, etc., et de services qui est quand même beaucoup plus dense que sur les côtes du Lot.
Mais il est parti de plus en plus il est sorti de la ville ancienne. La ville ancienne, elle était pour des raisons objectives qui étaient le transport. Le transport coûtait très cher avant la mécanisation. Et par exemple, un tombereau de bois au bout de 40 kilomètres, le prix du trajet était le prix du bois. Donc, on n'imagine pas ce que c'était avant. Aujourd'hui, le transport ne coûte rien. Alors, évidemment, les écologistes vont crier en disant, justement, il faut arrêter et que les gens ne bougent pas. C'est un peu le problème.
On ne dit pas qu'ils ne bougent pas, mais on dit qu'ils bougent avec des moyens, pas des moyens individuels. Donc, on voit dans Toulouse que tous les aménagements urbains, qui sont d'ailleurs la plupart du temps assez surprenants, pour ne pas dire une intelligence au bon sens, empêchent les voitures de circuler. On essaye de rarifier la voiture dans Toulouse pour privilégier certainement des transports en commun, métro, tramway.
Oui, mais où sont les activités? Les activités quittent le centre des villes.
Alors, qu'est-ce qui reste au centre-ville?
Mais il y a des bobos qui habitent, hein, mais vous le savez bien. dont nous faisons peut-être partie, mais la question n'est pas là. C'est pas, encore une fois, je ne me pose pas sur un point de vue moral. Effectivement, la ville a des qualités, il y a des bâtiments anciens, il y a tout un esprit dans la ville, puis il faut dire qu'est-ce qui a pris la place dans les rez-de-chaussée. Bon, c'est des bars, des restaurants sympathiques.
Pas
cette
toujours.
Ville urbaine est tout à fait sympathique. Mmh. Et il s'agit pas de dire cela, mais c'est pas cette ville-là qui fait tourner l'économie française. C'est pas là que ça se passe. C'est assez étonnant. Et je pense que justement la carte de l'activité. Alors c'est vrai que par exemple on vous dit Paris tire la France, mais Paris, parce qu'il y a les sièges sociaux qui sont avenue Diéna.
Oui, d'accord,
mais tout ça est faux. Mais attendez, mais quand on vous parle que la Paris tire la richesse nationale, mais il n'y a rien dans Paris.
Il y a des sièges de banque, il y a des sièges de grandes entreprises.
Mais c'est
allez à la défense, ils sont tous à la défense.
Mais vous avez, en fait, l'économie française, on pourrait la résumer, c'est les sièges sociaux sont dans les boîtes aux lettres des grandes adresses, les bureaux sont dans la grande périphérie et les usines sont dans la France à l'extérieur. Voilà les trois niveaux des entreprises.
Alors sur Toulouse, on dit quand même Toulouse que...
Donc, et on vous dit, alors évidemment, si vous prenez statistiquement, vous allez avoir le siège social qui va déclarer son chiffre d'affaires dans ses 30 mètres carrés du bureau, il va le faire avec l'adresse prestigieuse qui va être les Champs-Élysées, ou peut-être ou l'avenue Diéna, ou la Grande Armée. C'est très chic de dire on est un passe Pablo Neruda, par exemple. Ça, tout de suite, c'est moins chic.
Est-ce que ce que l'on dit en permanence, c'est-à-dire que Toulouse, finalement, attire toutes les forces vives, est en train de pomper, si je puis dire, tout le sang de l'Occitanie. Alors, autrefois, on disait Midi-Pyrénées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un déséquilibre au profit de Toulouse, où toutes les populations viennent ici, les départements se désertifient? C'est quand même vrai. Quand on circule dans nos départements périphériques, on s'aperçoit qu'il y a moins de substances économiques et il y a moins de personnes aussi, puisqu'elles ont dû suivre le travail.
D'abord, le problème de la circulation. D'abord, je pense qu'il y a une très grande mobilité aujourd'hui qui n'existait pas avant, où il y avait justement ces métro boulot dodo, enfin du moins ces alternances journalières. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et qu'avant. De toute manière, les familles aujourd'hui, les gens ne travaillent pas au même endroit, donc ça circule de partout et donc. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des prophéties autoréalisatrices du fait par exemple de dire l'intelligence est dans les grandes villes, donc les universités doivent y être parce que et c'est une nécessité. Je vous rappelle que aux États-Unis par exemple les grandes universités, Stanford s'est perdu dans la pampa, Princeton aussi et sont au milieu du nulle part. Ou Yale, ce sont les comme Cambridge et Oxford en Angleterre, ou Heidelberg, enfin, il y a des villes universitaires. Alors, on n'a pas cette tradition en France. Alors, on dit... Les grandes villes, c'est l'intelligence. Mais non. Regardez par exemple aux États-Unis, où sont Apple, où sont Microsoft. C'est au milieu des lacs, dans la campagne, et toute la Silicon Valley est en fait un endroit qui n'est absolument pas un endroit urbain. Donc cette association de dire l'économie mondiale aujourd'hui, elle est dans les villes, et je crois avec la nouvelle économie, est de plus en plus faux.
Victoria.
Je voulais rebondir. Oui, effectivement, par rapport aux universités, je suis d'accord avec vous, mais la façon de l'histoire des universités ici, c'est pas pareil que aux États-Unis. C'est vrai que là-bas, on vit dans les universités, on fait toute une vie, donc ces grandes universités, les terrains, mais ici, c'est une histoire de la ville. On a à côté, on a Capitole, par exemple. Donc là, déjà, la ville va se construire aussi autour de ça, parce que, par exemple, Toulouse, elle est connue pour être une ville d'étudiants aussi. Donc je pense que ça va jouer aussi dans le fait que Toulouse attire énormément d'étudiants. Que je crois que c'est aussi, ça va travailler dans la pensée des gens pour dire, c'est une ville, c'est facile pour vivre, pour... je sais pas, c'est pas comme ce que vous en pensez, mais je pense aussi que les gens, ils peuvent prendre leurs décisions de cette façon.
Jean-Pierre.
Oui, c'est un débat, mais je ne suis pas sûr que la vie des étudiants à Toulouse, avec le manque de logements, les logements très chers, ce qui est le cas à Paris, par rapport à la vie sur le campus, je vous parle en connaissance de cause, soit bien meilleure. Je crois que ça marchait bien quand il y avait 3000 étudiants à Toulouse, effectivement. Mais aujourd'hui, il y en a 120 000, je crois. C'est bien plus que la population du centre. Alors, il y a effectivement cette fiction de la ville étudiante, mais je pense que c'est pas un très bon modèle. En tout cas, il y a une chose qui n'est pas un très bon modèle, c'est cette séparation où on a d'un côté une fac de droit qui est au nord, une fac à l'ouest de sciences humaines et une fac de sciences qui est au sud. Et je pense que le principe justement d'avoir des grands territoires et avec la possibilité d'avoir toutes les disciplines, je pense qu'on est sur un modèle complètement archaïque et je pense que c'est un des problèmes de notre pays.
Est-ce que les villes sont adaptées aux gens les plus faibles, c'est-à-dire les handicapés, les enfants, les personnes âgées? On n'a absolument pas l'impression, quand on circule dans Toulouse, que c'est fait pour eux. Il y a des obstacles partout, il y a des dangers partout. On n'y pense pas, ces gens.
Oui, bon, c'est une histoire compliquée, ça, effectivement, parce que, effectivement, ça n'a pas été un souci historique. Donc, ça pose des problèmes. Mais moi, personnellement, je pense qu'il serait plus intéressant que l'on donne des moyens pour, par exemple, les personnes qui sont en handicapées physiques, d'avoir des logements entièrement adaptés dans des lieux qui dédiés, que d'essayer de transformer des fois des bâtiments avec à des coûts incroyables et des choses un peu impossibles. C'est un autre débat.
Si la ville s'étend, si les gens vont habiter en périphérie ou plus loin, ça veut dire qu'il va falloir les transporter. Alors il faut donc une politique de transport.
Mais transporter de où à où?
De là où ils sont, ils vont venir en ville, donc ils vont circuler, ils vont venir en ville ou ils vont aller à la périphérie, où ils vont aller sur leur lieu de travail. Ils ne vont pas forcément habiter collés sur leur lieu de travail. Donc, il va falloir les transporter. Or, une politique de transport, que ce soit métro, tramway, etc., c'est quelque chose qui se prévoit à long terme. Mmh. Comment, aujourd'hui, on arrive à faire une politique de transport? Par exemple, si on parle de la troisième ligne de métro, je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier, moi, non. Est-ce qu'on peut prévoir à 20 ou 30 ans ce que sera la physionomie d'une ville? Et donc, adapter les services?
Moi, je pense qu'il faut résoudre les problèmes du moment. L'avenir ne nous appartient pas. Sire, l'avenir est à Dieu. Donc, je crois que les projections, on se trompe toujours. Donc, il y a à résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes d'aujourd'hui, on le voit, on n'est plus sur les problèmes d'hier. Par exemple, quand on vous dit il faut rapprocher le transport du travail, mais qui demande ça ?
Ceux qui vont travailler,
Non. Si vous les enquêtes du Crédoc montrent que les gens, ils souhaitent pas. D'abord, les couples ne travaillent pas au même endroit, et les gens ne souhaitent pas être à côté de leur travail. Ils veulent pas être loin. Mais ils veulent pas être prêts.
Donc il va falloir ou les transporter ou qu'ils se transportent eux-mêmes. Donc il faut des infrastructures. Comment prévoit-on des infrastructures qui sont lourdes ?
Ça fait partie de la planification. Et la planification, c'est un mot qui aujourd'hui a été oublié. Planifier par exemple les universités, planifier ou la place de l'éducation, l'endroit des hôpitaux. Et ça, c'est ça l'urbanisme. Mais ça, on n'en parle pas. On peut pas à la fois ce mot planification. Bon, c'est un peu triste. On préfère parler de ville verte, conviviale. Là, ça fait rêver les politiques, ça fait rêver les urbanistes.
Toulouse, je regarde un peu le bulletin magazine d'information Toulouse. Toulouse, ville rose, ville verte, les cinq objectifs du projet urbain. Conjuguer croissance et qualité de vie, bâti et nature en ville, appliquer la densité modérée, etc., etc. Lutter contre le réchauffement, qui perméabilise les sols, donc combattre la pollution, les végétaux partout, etc. Est-ce que c'est pas un peu une tendance, c'est bien pensant par rapport au credo d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est réaliste?
Ça s'appelle un oxymore en français.
Oui.
Voilà. Alors l'oxymore, c'est très satisfaisant parce que vous dites tout est son contraire. Alors effectivement, vous pouvez avoir l'unanimité. D'ailleurs, c'était le slogan de Baudy, c'était la Toulouse est la ville douce et forte à la fois. Ça, c'est un oxymore. Voilà, douce et forte.
Ça ne veut rien dire. C'est un slogan politique.
Et c'était la ville, la grande ville, le petit village. Alors on faisait d'ailleurs les toits en tuiles au-dessus des immeubles. Et comme ça, ça avait l'air d'être un village, mais c'était la grande ville. Il faut faire un choix, comme je vous disais. Soit vous avez le voilier, le paquebot ancien, et soit vous avez le bateau de croisière. Tout le monde veut avoir vue sur la mer. Ah ben, vous avez le résultat. Donc, il n'y a pas de solution qui peut d'oxymore. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un bateau avec la silhouette d'un voilier et avec une chambre où tout le monde, où on va loger 3000 personnes qui vont avoir la vue. Et ça, c'est le problème de l'urbanisme d'aujourd'hui, où on ne peut pas avoir des gens qui ont des logements où ils sont pas le soleil et ils n'ont pas de vue. C'est pas possible. Voilà.
Et pourtant, c'est le cas. Regardez les bâtiments qu'on voit aujourd'hui. C'est plus des fenêtres qui sont des meurtrières.
Non, mais normalement, la loi, c'est celle-là. Normalement, il devrait y avoir un nombre d'heures d'ensoleillement. Et je crois que ça, c'est ça le droit. Si on parle de droit à la ville, moi, j'ai le droit au soleil. Et qui est quelque chose de fondamental avant ces concepts fumeux hérités du gauchisme 68-art.
Est-ce que les politiques aujourd'hui, c'est quand même le politique, c'est le maire, c'est son équipe qui va déterminer une politique de la ville, qui va dire ce que sera durant son mandat et le prochain, parce qu'ils s'imaginent tous qu'ils vont en faire 2, 3, 4, 5. Est-ce que les politiques sont à la hauteur aujourd'hui de ces enjeux?
Je pense que les politiques, on leur a volé le sujet.
Et qui l'a volé?
La technostructure. Aujourd'hui, j'étais à une réunion avec, on va parler clair, des gens de Toulouse Métropole, et ils répétaient d'une manière, ils scandaient son propos, les politiques nous suivent. C'est-à-dire qu'ils décident le projet et en mettant le politique devant des projets avec des mots compliqués, parce que c'est des mots savants, l'urbanisme, les zones machin chouette, les trucs là, on noie tout le monde avec un langage auquel on ne comprend rien. On a dessus une couche d'écologie, développement durable, vert, etc. On fait la salade du hamburger et puis on referme et le le politique, on lui dit, vous avez le choix entre ça et ça. Vous avez le maxi hamburger et le deuxième. Ah, ben, il sait pas quoi choisir. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir. C'est tout. Donc, je ne vais pas tirer sur
un politique. Enfin, il n'a pas le pouvoir parce qu'il le laisse à d'autres et parce qu'il ne veut pas l'exercer.
Mais c'est un vieux problème. C'est pas le problème de Toulouse. C'est un problème aujourd'hui. Je vous disais, la ville avant, elle a été faite par les politiques. Et on disait, les architectes, ils faisaient les bâtiments, ils faisaient les aménagements, mais ce n'est pas eux qui décidaient les grandes percées et la position des parcs, etc. Et aujourd'hui, je suis désolé pour ma profession, mais les architectes, ils ont à faire pour le mieux de ce qu'on leur demande. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que, si vous prenez les annonces immobilières, est-ce que vous allez trouver une annonce immobilière qui dit « je cherche un endroit avec un fort mélange social, qui soit très vivant la nuit et le jour et tout le monde va rigoler, et puis on va appeler Stéphane Plaza qui va vous dire « vous ne pouvez pas la vendre votre appartement ». Et donc, aujourd'hui, que demandent les gens ? Résidentiel, calme. Pas d'activité, la proximité des services, c'est vrai, mais c'est ça, justement, d'abord l'urbanisme, c'est d'écouter les gens, de répondre, et pas de dire aux gens ce que je vous disais la semaine dernière, c'était « on va vous éduquer ».
Donc on pourrait conclure, comme on dit en occitan, « farem tot petat », vous savez ce que ça veut dire, on le voit à l'arrière de quelques voitures, c'est ça qu'il faudrait faire, raser tout et recommencer. Regardez Barcelone par exemple, ils ont cassé les remparts et ils ont fait un urbanisme qui est aéré, dans lequel on peut circuler.
Oui, mais je pense qu'on peut tout à fait. Je pense que je vais terminer sur ça. Laissons le centre-ville tel qu'il est et on a trop fait, trop investi d'argent, trop modifié de choses. Laissons-le tel qu'il est, comme un quartier. Il n'aurait pas fallu démolir Saint-Georges. Il aurait fallu garder ces quartiers, les améliorer. Mais par contre, les grands secteurs qui sont immenses autour de notre ville, elle n'est pas coincée par la mer, elle n'est pas coincée par la montagne, comme Marseille, Bordeaux, qui sont des villes géographiquement avec des limites. On a cette chance-là. Mais ces grands territoires, il faut les réaménager. Et ça, je pense qu'il y a suffisamment de gens de talent dans cette ville pour le faire. Simplement, il faut le dire.
Il faut surtout une volonté politique et il faut qu'on écoute.
Il faut que des gens comme nous le disons. Voilà.
Et bien écoutez, on l'a dit, mais je sais qu'on peut-être un jour vous le redirez à ce micro. Non, allez, on parle de livres, séquences littéraires. Je sais que vous en avez écrit au moins un. On peut en deux mots. De quoi traitait-il ?
C'est un livre qui s'appelle Le Masque et le Temple. Qui était une réflexion que j'ai faite à partir de mes cours que je faisais à l'école d'architecture de Montpellier sur l'histoire de l'art et de l'architecture, et c'était de la réponse c'était la question sur le rapport qu'il peut y avoir entre les sociétés, la forme des sociétés et la production artistique, et aussi quelle était la hiérarchie entre les formes artistiques. En d'autres termes, pourquoi l'architecture quelle était la position aujourd'hui de la musique, de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, et pourquoi dans la sculpture africaine vous avez des civilisations, des cultures qui font de l'art abstrait, d'autres qui font de l'art expressionniste et d'autres qui font de l'art réaliste. Donc c'était un travail sur cela, et d'ailleurs, bon, c'est un travail qui m'a demandé une introspection en tant qu'architecte, et mon épouse Nathalie m'a aidé parce qu'elle est psychologue, et effectivement, on a fait un travail ensemble où il fallait comprendre certaines choses des a priori que l'on pouvait véhiculer dans sa propre culture professionnelle.
On rappelle le titre ?
Le Masque et le Temple.
On le trouve
Non, on le trouve plus.
On le trouve plus.
Il a été épuisé. Il était à Ombre Blanche, mais je pense que les derniers exemplaires ont été vendus. Il faudrait les réimprimer et l'améliorer parce que les choses ont un peu changé depuis, je pense, et je peux l'améliorer.
Allez, moi, je vous parle de notre livre. Et ça, c'est le conseil de lecture de Cap, d'un livre de Jean-Yves Lorichesse, Les chasseurs dans la neige aux ateliers Henri Douchier. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Yves Lorichesse, Jean-Pierre ou Léonora. Non, vous n'avez jamais entendu parler. C'est un professeur de littérature française, d'agrégé hein, de littérature, qui enseigne chez nous à l'université. Il est passé dans plusieurs villes, mais il enseigne chez nous. Il a publié à peu près 6 romans depuis 2008. Et là, il nous livre un très joli petit livre, une écriture empreinte de beaucoup de charme, un propos original. Et il va nous parler de Bruegel l'Ancien. Bruegel l'Ancien, dont aucun portrait d'ailleurs fiable ne nous est parvenu à ce jour, et pourtant certains de ses tableaux sont parmi les plus célèbres du monde. On parlera la semaine prochaine du Caravage, mais Bruegel l'Ancien fait partie des noms extrêmement connus. Et dans l'un d'entre eux, Les chasseurs dans la neige, l'auteur va imaginer à partir de ce tableau un épisode de la vie du peintre et il va remonter cet épisode. Alors ça se passe au cœur de l'hiver 1565, on n'est plus très loin du Caravage quasiment. Et Peter Bruegel va faire un bref séjour dans un village de Flandre pour réaliser les dessins préparatoires de son cycle des mois, son fameux cycle des mois. Et là, il va trouver une jeune brodeuse rencontrée lors d'une fête. Et ben, il va se passer des choses entre la brodeuse, entre Bruegel, que imagine notre auteur, Jean-Yves Lorichès, à travers ce tableau. Il va faire parler, il va rentrer dans ce tableau. Et puis, il va imaginer tout un contexte. C'est un très joli livre. Pas gros, mais très joli, Les chasseurs dans la neige. Jean-Yves Lorichès, aux ateliers. Henri Dougier, je vous en conseille chaleureusement la lecture. Merci Jean-Pierre Estrampe d'être revenu une deuxième fois. Merci Léonore d'avoir participé à notre émission. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Nous avions à la technique toujours fidèle Hugo Pépitone. Merci Hugo. Et vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres émissions, soit sur le site, soit sur notre application. N'oubliez pas, rediffusion de cette émission demain mardi à 12h, qu'on se le dise, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, même heure, pour découvrir un nouvel invité et un nouvel univers, et a priori ce sera l'invité d'un commissaire-priseur et de son tableau phare, celui du Caravage. Merci de votre fidélité, bonne semaine à toutes et à tous, adieu.